Radio Prague, les informations.
Le voyage du président russe en Tchéquie sera une nouvelle impulsion pour les relations mutuelles. Le pape Benoît XVI recevra le cardinal Miloslav Vlk à Rome. Le groupe de Visegrad pour la libre circulation de la main-d'œuvre. Lors de l'audience des nouveaux ambassadeurs à Moscou, dont le chef de la mission diplomatique tchèque, Miloslav Kostelka, le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu'il était persuadé que son voyage en Tchéquie en mars prochain devrait donner de nouvelles impulsions à la coopération entre les deux pays. Le pape Benoît XVI recevra l'archevêque de Prague, le cardinal Miloslav Vlk, lors de la rencontre des évêques à Rome au mois de février. L'audience privée aura lieu le 10 février. Son programme portera sur les activités spirituelles du cardinal tchèque parmi les évêques et au niveau international. Le groupe de Visegrad se réunit ce samedi à Prague pour discuter surtout de la nécessité de la libre circulation de la main-d'œuvre dans les pays de l'Union européenne. C'est dans cet esprit que devrait être rédigée la déclaration de clôture qui sera adoptée par les représentants des corps législatifs de Hongrie et de Slovaquie et les deux chambres polonaises et tchèques. Une action de prévention intitulée « Par le jeu contre le sida » rencontre un large écho auprès des étudiants et des pédagogues. Elle est organisée pour la troisième année en Bohême centrale. L'année dernière, plus de 3000 élèves de 64 écoles primaires et 850 étudiants des écoles secondaires y avaient participé. D'après le biologiste Jaroslav Peter de l'Institut de recherche de l'élevage, une pandémie de grippe est probable dans le monde. Pourtant, elle ne serait pas déclenchée forcément par le virus de la grippe aviaire. En effet, les chercheurs ont découvert des mutations importantes des virus de la grippe dans les élevages de porcs aux États-Unis. C'est dangereux car on se prépare à la grippe aviaire, mais on pourrait être confronté à un tout autre virus. La Chambre des députés vient d'adopter un amendement à la loi sur la fabrication de l'alcool. Les distilleries pourront désormais fabriquer du bioéthanol en même temps que de l'alcool classique. Ainsi donc, la Tchéquie pourrait donc devenir moins dépendante du pétrole car le bioéthanol s'ajoute au carburant classique. Les députés ont de nouveau reporté d'une semaine la discussion du projet de loi sur l'audiovisuel. Les demandeurs de licences pour les émissions numériques ne voient pas cela d'un bon œil. En effet, cela fait plus d'un an qu'ils ont fait leur demande de licence pour pouvoir diffuser en numérique. La météo pour terminer, une météo qui nous annonce le retour de grand froid pour ce week-end après un tout léger redout à la fin de la semaine. Le thermomètre pourrait descendre vers les moins 20 degrés dans certaines régions. Autrement, le soleil pourrait être de la partie. Bonne fête au Jarmila, le samedi 4 février. C'était les informations par Alain Slivinski. Bonne écoute de la suite du programme de Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque. Guillaume Narguet.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute de ce programme d'actualité. Une délégation parlementaire algérienne a effectué une visite de 5 jours en République tchèque, notamment afin d'inviter les entreprises tchèques à investir dans un pays en plein boom économique. Une petite ville de Bohême à la frontière tchéco-allemande a eu recours à une initiative originale et sans précédent pour répondre au problème de la prostitution. Désormais, des panneaux de signalisation ont été apposés dans les rues des quartiers chauds de la cité. Quel type de panneau? C'est ce que nous découvrirons dans un instant. Une large place sera ensuite réservée à la culture avec tout d'abord l'adoption d'une importante loi sur l'orthographie. Un chœur marseillais est en concert également au Théâtre des États à Prague. Enfin, nous bouclerons ce quart d'heure d'actualité avec la présentation de la première de Juliette, un opéra de Bohuslav Martinu à l'Opéra Bastille de Paris. Toute l'équipe de la rédaction française vous souhaite un agréable moment en notre compagnie. Une délégation parlementaire algérienne était en visite à Prague tout au long de la semaine. Inviter la République tchèque à participer à la relance économique en cours en Algérie, tel est le principal message que les députés du plus vaste pays du pourtour méditerranéen et deuxième plus vaste pays d'Afrique ont adressé à leurs interlocuteurs tchèques, parmi lesquels le chef du gouvernement, Jiří Paroubek, et les ministres de l'Industrie, de l'Agriculture et des Transports. Et ces derniers n'ont pas manqué de porter une oreille attentive au projet d'une Algérie qui, jusqu'à la chute du régime communiste en 1989, a entretenu des relations privilégiées avec la Tchécoslovaquie. Président de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération et de l'immigration à l'Assemblée populaire nationale d'Algérie et chef de la délégation présente à Prague, Regig Bentabet en a dit un peu plus sur les différents objets de cette visite qu'il a qualifié de positive au micro de Radio Prague.
Il faut savoir que l'Algérie est sortie de sa crise sécuritaire, économique et sociale. Et grâce à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, nous avons en Algérie entamé deux grands projets, la concorde civile et la réconciliation nationale pour résoudre le problème sécuritaire. Maintenant, l'Algérie est stable sur tous les plans, sécuritaire, économique et politique. Sur le plan économique, le président de la République a lancé un programme de soutien à la croissance économique qui est à l'ordre de 55 milliards de dollars pour un développement durable et la création en parallèle d'environ 100 milliards de dollars d'investissement. Ces chantiers sont ouverts à tous les pays amis et c'est pour ça que nous sommes là pour demander aux autorités tchèques d'aider et de participer dans ces chantiers. Ces chantiers sont la construction d'une autoroute de 1200 km est-ouest, 1 million de logements, plusieurs lycées, plusieurs barrages, des universités, des hôpitaux, 2000 km de chemin de fer et d'autres infrastructures de base. Et en parallèle, on va créer à peu près 2 millions d'emplois d'ici 2009.
Alors justement, quel est l'intérêt que les entreprises tchèques portent à votre projet et aux possibilités d'investissement dans votre pays ?
L'intérêt, c'est que les entreprises tchèques ou les investisseurs tchèques ont une expérience plus avancée que nous et que dans quelques domaines, ils ont beaucoup d'expérience et c'est pour ça que nous voulons la participation de ces investisseurs, surtout dans le domaine de chemin de fer et dans l'électrification de chemin de fer et aussi dans le projet de tramway et d'autres projets comme l'habitat et les barrages.
Si le volet économique a donc été très largement abordé, le domaine diplomatique et la politique internationale ont constitué l'autre thème principal des entretiens entre les responsables des deux pays. Et là encore, les deux parties ont trouvé un terrain d'entente, comme le confirme Regig Bentabet.
La délégation parlementaire est arrivée à Prague sur l'invitation de mon homologue, président de la Commission des affaires extérieures de l'Assemblée tchèque, et cela pour relancer les relations bilatérales sur tous les plans politiques, économiques et culturels. Nous avons constaté que nous avons la même trajectoire politique sur tous les différents conflits que connaît la région euro-méditerranéenne, le Moyen-Orient, le Maghreb et le reste du monde. Sur le problème du Sahara occidental, les deux pays optent et déclarent en faveur d'une solution pacifique au conflit et s'en tiennent aux résolutions de l'ONU ainsi qu'au plan de Houston. Et pour le Palestine, les deux pays sont en faveur d'un règlement pacifique du conflit et l'application des résolutions de l'ONU.
Des panneaux de signalisation pour les prostituées. C'est le nouveau moyen trouvé par la municipalité d'une commune tchèque proche de la frontière allemande pour réguler le plus vieux métier du monde. Désormais, tapiner dans la petite ville de H ne sera autorisé que dans les rues signalées par ces panneaux très spéciaux. Des détails avec Alexis Rosenzweig.
De grosses lèvres rouges sur fond blanc, barrées ou non d'un trait noir dessiné sur un panneau en losange. Voici ce qui devrait servir à indiquer aux péripatéticiennes les endroits et les quartiers où elles peuvent travailler. Dans une région où le tourisme sexuel prospère, la décision de la municipalité de H a été très remarquée. On écoute le maire, Dalimor Blažek, du Parti civique démocrate.
Ten problém spočívá hlavně v neexistenci vyšší právní normy, to znamená v neexistenci zákona.
Le problème est qu'il n'existe aucune norme juridique, aucune loi. Et tant que ne sera pas défini ce qu'est la prostitution, ce qu'est l'offre de services sexuels, ce qu'est une maison close, alors personne ne pourra rien faire. Et puisque le gouvernement n'a fait passer aucune loi, ce sont les villes et les communes qui doivent résoudre le problème seules à l'aide d'arrêtés municipaux.
Parce qu'il ne pouvait interdire totalement la prostitution sur le territoire communal sous peine d'intervention du juge constitutionnel, le conseil municipal de H a donc décidé de recourir à ces panneaux uniques en leur genre, Dalibor Blažek.
Nous essayons avec ces panneaux d'attirer l'attention sur le vide juridique qu'il existe dans ce pays autour de la prostitution. Ces panneaux pourraient être pires. Je pense que les conseillers ont fait preuve d'humour. Il n'y a rien d'écrit dessus pour que personne ne puisse nous reprocher de viser surtout les touristes allemands.
Et en cas de non-respect de la nouvelle signalisation municipale, Une amende pourra être imposée, mais le maire regrette de ne pas disposer davantage d'armes dissuasives.
Je ne suis pas législateur, mais selon moi, la seule solution serait la prison ou le travail d'intérêt général. Il suffit de regarder chez nos voisins à 3 km de cette mairie en République fédérale d'Allemagne où ils n'ont pas ces problèmes. Là-bas, la prostitution est régulée. Bien sûr, la prostitution existe dans des hôtels et dans des bars, mais pas du tout dans la rue. Et c'est le principal problème que l'on a ici.
C'était le maire de H, Dalibor Blažek, qui ne se fait pas beaucoup d'illusions sur l'avenir de ces panneaux. Car, dit-il, des panneaux qui vont en choquer plus d'un et surtout des panneaux qui vont intéresser les collectionneurs et sont donc susceptibles d'être dérobés. Redonner des moyens au cinéma tchèque, tel était pendant des années l'objectif d'une poignée de professionnels locaux. Leur initiative a abouti. Cette semaine, la Chambre des députés a adopté un amendement à la loi sur le fonds de soutien au cinéma qui devrait multiplier considérablement les aides publiques accordées à la production. Explication avec Magda Segertova.
Jusqu'à présent, le fonds de soutien au cinéma alimenté d'une couronne symbolique reversée sur chaque billet vendu disposait de près de 2 millions d'euros par an. À noter que la production d'un seul film tchèque revient à la moitié de cette somme, mais que les cinéastes locaux parviennent miraculeusement à réaliser une vingtaine de films par an. Avec le nouveau système, il se verrait distribuer environ 5 fois plus d'argent. Le principe est le suivant. Outre les subventions plus importantes du ministère de la Culture, les exploitants des salles de cinéma reverseront au fond 2% de leurs recettes. Les 2% seront également prélevés sur la publicité à la télévision ainsi que sur la location de vidéos et de DVD. Les représentants des chaînes de télévision voient rouge. La porte-parole de TV Prima parle d'une mesure injuste, d'une perte d'une partie du marché de la publicité et d'une répartition socialiste de l'argent. Les exploitants de salles souffrant d'ores et déjà d'une faible fréquentation prévoient une augmentation des prix du billet. Le sujet préoccupe aussi bien les propriétaires des multiplex que leurs rivaux, comme le confirme Ivo Anderle, exploitant de deux cinémas pragois d'art et essai.
La loi en tant que telle et la manière dont elle sera appliquée, ce sont deux choses distinctes. Le temps nous montrera si elle sera efficace et si l'argent ira vraiment là où il manque le plus. Personnellement, je ne suis pas partisan de la redistribution importante de l'argent de l'État, donc je ne m'en réjouis pas vraiment. En plus, si aujourd'hui nous ne gagnons qu'un euro sur chaque billet vendu, nos recettes seront encore inférieures. Mais ce qui me gêne surtout, c'est l'absence d'une stratégie globale de l'État en matière de cinéma. Le ministère de la Culture se concentre sur une seule loi et une seule problématique, aussi importante soit-elle, et c'est la production des films.
En revanche, la modification du système de financement du cinéma a été saluée par de nombreux cinéastes, distributeurs et producteurs. Il nous faut une telle loi pour qu'un jour on ne soit pas avalé par un hamburger bien gros et bien gras qui détruirait tout ce que nous avons créé en matière de cinéma au cours des 100 dernières années, estime Petr Vachler, directeur de l'Académie tchèque du cinéma et de la télévision. L'amendement à la loi sur le fonds du soutien au cinéma sera encore discuté au Sénat.
Les Bras ouverts est le nom d'un projet qui s'inscrit dans une série spéciale de programmes destinés aux minorités et qui a été initié par le Théâtre National de Prague. Une intéressante participation française marque sa troisième édition. Une information d'Alena Gebertova.
Le Théâtre National de Prague, qui couvre trois scènes, celle du Théâtre National, du Théâtre des États et du Théâtre Kolovrat, se veut ouvert occasionnellement à des programmes off. Pour Daniel Dvořák, son directeur, le panorama Les Bras ouverts, qui se déroule depuis ce vendredi et jusqu'à mercredi prochain, est l'un des plus particuliers.
Musím říct, že také ho zde v divadle všichni máme velice rádi a s velkým zájmem.
Force est de constater que c'est un programme qui nous est particulièrement cher et que nous avons un grand plaisir à préparer. Il est destiné à des minorités les plus diverses, qu'il s'agisse de genres minoritaires ou de minorités linguistiques, sociales ou de personnes handicapées. Si la scène s'ouvre à des programmes spécifiques, la salle de son côté accueille les personnes qui, pour différentes raisons, ont rarement la possibilité, sinon jamais, d'aller au théâtre.
Et Daniel Dvořák de souligner que c'est pour la première fois que le Théâtre National ouvre ses portes spécialement à un public défavorisé. 4 concerts sont programmés cette année dans le cadre de ce mini-festival. Très sollicité, la production vendredi soir du groupe occitan de Marseille, Le Corps de la Plana, sur la scène du Théâtre des États, le même sur lequel Mozart avait exécuté son Don Giovanni. Le critique de musique tchèque Petr Doruška.
Mně osobně se strašně líbí. Viděl jsem je několikrát, je to velmi kultivovaný.
C'est un groupe qui me plaît beaucoup, je l'ai vu à plusieurs reprises et c'était toujours un très grand plaisir pour moi. Le chant polyphonique de ses membres est très cultivé, j'aurais du mal à le situer dans un genre précis tellement le groupe est original. Tout ce que je peux dire, c'est que l'on a tendance à coller à ce style et type de musique l'étiquette de world music.
Všechny ty lokální styly, staré tradice, kam se shrnují.
La musique du groupe d'Old Gypsies of Rajasthan de l'Inde peut être qualifiée elle aussi de world music. Sa production, le mercredi 8 février sur la scène du Théâtre National, s'annonce comme un autre point fort des Bras ouverts 2006.
C'est ce vendredi que l'opéra Bastille à Paris présente la première de Juliette ou la clé des songes, un drame lyrique de Bohuslav Martinů sous la direction musicale de Jiří Bělohlávek. Cette production mise en scène par Richard Jones attire l'attention du public sur un opéra surréaliste et étrange qui n'en est pas moins une des œuvres les plus accomplies de son auteur. Plus de détails avec Václav Richter.
Vers la fin des années 1930, Martinů tombe sur une pièce de théâtre surréaliste de Georges Neveu et c'est un coup de foudre. Le compositeur est subjugué par l'univers onirique de la pièce qu'il considère tout de suite comme un excellent sujet pour un opéra et cherche sans tarder à partager son enthousiasme avec Neveu. « J'ai relu il n'y a pas si longtemps votre pièce, lui écrit-il, et je ne sais comment cela s'est fait, mais je m'aperçois que j'ai déjà mis le premier acte en musique. Si vous avez envie de l'entendre, venez me voir. » Georges Neveu, dont la pièce est sollicitée aussi par un autre compositeur, Kurt Weill, accepte cette invitation et écoute Martinů lui chanter le premier acte. Il n'arrive pas à résister au talent du musicien tchèque, il est tout simplement séduit. La rencontre a été courte, mais la sympathie immédiate, dira-t-il. Martinů aimait les poètes surréalistes. De mon côté, j'étais sensible à sa musique qui se développe toujours sur plusieurs plans. La joie sur fond de mélancolie, l'ironie sur fond de tendresse. J'avais retrouvé ma pièce et pourtant j'avais l'impression de l'entendre pour la première fois, avec cette émotion et cette profondeur que seule la musique peut exprimer au-delà des mots. C'est dans un univers où la réalité côtoie le rêve que Martinů et Neveu plongent le spectateur. Le héros de l'opéra, Michel, un jeune commis voyageur, arrive dans une petite ville dont les habitants n'ont pas de mémoire. Michel, qui a de la mémoire, est un élément étrange dans cette ville de l'oubli. Il cherche désespérément à donner des contours concrets à son amour pour Juliette, une jeune femme qui fait partie de ce monde sans mémoire. Tout le spectacle est une lutte désespérée, écrira Martinů, à la recherche de quelque chose de stable à quoi l'on pourrait s'accrocher, le concret, la mémoire, la conscience à tout instant ébranlée, transposée dans une situation tragique où Michel combat pour garder sa propre stabilité, pour garder sa raison. S'il se laisse aller, il restera dans ce monde sans mémoire, sans temps, pour toujours.
Voilà, c'est donc sur cette aire de Bohuslav Martinou que les Parisiens peuvent aller écouter à l'Opéra Bastille que se terminent ces faits événements. Merci de votre attention et tout de suite place à un sujet moins mélodieux, l'économie.
Économie, commerce.
La libre circulation des travailleurs en Europe. Nous revenons aujourd'hui sur ce point important pour l'avenir de l'UE et de ses habitants. Au printemps prochain, 12 des 15 anciens membres devront décider s'ils maintiennent ou non les restrictions à leur marché du travail. Le délai imparti aux membres de l'UE pour ouvrir leurs frontières aux travailleurs européens des 10 derniers entrés approche à grands pas. Les défenseurs du commerce tchèque ont fait pression sur ces pays pour qu'ils permettent le libre déplacement des travailleurs. Des revendications qui font un écho lointain à la rencontre à Prague en octobre 2005 du ministre des Affaires étrangères français Philippe Douste-Blazy et de son homologue tchèque Cyril Svoboda. Le problème de la libre circulation des travailleurs était déjà au centre des discussions. 12 des 15 anciens membres de l'UE empêchent actuellement le libre accès à leur marché du travail tel que défini par le traité d'adhésion des 10 nouveaux membres. D'ici le 30 avril, ils auront à décider de prolonger ces restrictions ou de rejoindre la Grande-Bretagne, l'Irlande et la Suède dans l'ouverture de leur marché. Les pays de l'UE sont de toute façon appelés par les dispositions européennes à assouplir les restrictions liées au travail jusqu'à 2011, date à laquelle elles ne devraient plus exister. Le gouvernement tchèque essaye quant à lui, par un travail de lobbying, de les faire sauter dès maintenant. Pour les hommes politiques tchèques, la peur du plombier polonais est totalement injustifiée. Elle va avec l'idée que les membres anciens de l'UE seraient submergés par la main-d'œuvre bon marché des nouveaux membres. Un constat qui n'est pas vérifié par les statistiques avec la Grande-Bretagne, assez ouverte. Pour le président du Sénat, Przemysl Sobotka, aucun danger que les Tchèques n'envahissent les marchés du travail en Europe. On se demande même si ce n'est pas parfois la tendance inverse qui se produit. Face au chômage, de nombreux Français, par exemple, ont choisi de travailler à l'étranger. Dans son numéro de septembre 2005, le magazine français Technic Art consacrait une enquête à l'émigration des Français. Titre éloquent, le plombier polonais, c'est nous. 2 millions de Français seraient actuellement hors de l'Hexagone pour avoir cherché du travail. La stratégie serait payante, puisque 97% d'entre eux ont réussi. Le chiffre est surtout un record dans l'histoire du pays. Face à cette Europe à deux vitesses, certains, comme Jaromír Drábek, président de la Chambre tchèque de commerce, préconisent des mesures radicales et plus agressives. Œil pour œil, dent pour dent, la République tchèque devrait imposer les mêmes restrictions à l'égard des candidats de l'Ouest à l'embauche. Zdeněk Škromach, le ministre du Travail et des Affaires sociales, a affirmé que le gouvernement ne prendrait aucune mesure restrictive pour le marché tchèque du travail. « Nous comprenons les préoccupations des candidats à l'embauche à l'étranger, mais nous ne pouvons pas prendre des mesures bureaucratiques contre les travailleurs de l'UE en République tchèque », a-t-il affirmé. Pour autant, Škromach se dit prêt à se battre pour unifier la libre circulation en Europe. Il a rappelé que l'Espagne et la Finlande allaient sans doute bientôt lever les restrictions aux travailleurs tchèques. Aucun changement en perspective, en revanche, du côté de l'Allemagne et de l'Autriche, qui comptent garder leur marché fermé. Vladimir Špidla, commissaire européen à l'emploi, aux affaires sociales et à l'égalité des chances, a pour sa part estimé légitime le droit pour les pays de protéger leur marché du travail jusqu'à 2011. L'ancien Premier ministre tchèque a ajouté que 4 pays seraient susceptibles d'ouvrir leurs frontières au printemps. Le 8 février, il présentera à la Commission européenne un rapport sur les marchés du travail dans l'UE. Il y exposera plusieurs arguments pour le déblocage des restrictions. Au premier rang de ceux-ci, l'exemple de la Grande-Bretagne, qui devraient démontrer aux 15 qu'il n'y a aucun danger à ouvrir leur marché du travail. On compte aujourd'hui 230 000 travailleurs d'Europe centrale ayant travaillé ou travaillant en Grande-Bretagne.
Le programme en langue française de Radio Prague Onde Courte se termine. Merci de votre attention. Vos rapports d'écoute, observations et suggestions seront les bienvenus.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America,